J'avais titré ma présentation comment j'ai converti Capgemini au standard web. Et puis j'ai changé ça tout à l'heure en histoire d'un redesign parce que c'était quand même un tout petit peu plus important que juste le passage au standard web. Ça couvre plus une histoire de design. Qui je suis ? Alors, pourquoi j'ai rayé ça ? Techniquement, aujourd'hui, je suis toujours corporate webmaster du groupe Capgemini, une société d'informatique internationale qui compte 63 000 personnes aujourd'hui. Il se trouve que dans une paire de semaines à peu près, je ne serai plus au sein de Capgemini, qui ne me mérite pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le DRH. Et donc, dans quelques semaines, je serai disponible pour de nouvelles aventures. Groupe dont j'ai dirigé la présence sur Internet pendant 8 ans. Je suis rentré en juin 98 et je le quitterai en octobre 2006. Je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle Blogueur d'entreprise aux éditions Erol. Les blogs étant depuis un petit peu plus de bientôt 5 ans un sujet qui m'intéresse pas mal. Et je suis également éditeur, blogueur de deux blogs, un en anglais et un en français. Donc, certains me connaissent aussi sous le pseudo de Padawan, ce qui est l'adresse de mon blog. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est l'histoire d'une conversion, en l'occurrence une conversion au standard web, une conversion aussi au design web. Je vais essayer de vous faire partager le retour d'expérience que j'ai eu de l'ensemble de ces designs que j'ai pu piloter ces 8 dernières années chez Capgemini, et puis évidemment essayer de répondre à vos questions. Donc 8 ans de redesign pour moi chez Capgemini. Alors ça commence pas en 98, c'est le premier design, on voit pas très très bien, mais le premier vrai design entre guillemets de site web de Capgemini, c'était ça, nom de code Birdie, qui était fait par une agence anglaise, qui était visiblement très métaphorique, trop métaphorique, hein, puisque il a été déployé sur un seul des sites qui était le site institutionnel de la maison, et que aucune des filiales du groupe, même pas les Anglais, développé par les Anglais, n'a décidé d'adopter ce design-là. Donc ça, c'est un exemple de page interne, et ça, où on voit vraiment pas du tout, c'était l'intranet à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, liste de choses avec un joli fond et des étoiles, un fond noir avec des étoiles en background. Moi, quand j'ai été embauché, j'ai eu la mission de, le nom de code de mon boulot, c'était Stop the Chaos. C'était arrêter le bordel, parce qu'on avait 25 sites et 25 look and feel différents. Et la première mission, c'était aligner l'ensemble de tous les pays sur le même look and feel, sur l'ensemble des sites web externes au moins. Donc, j'ai découvert ça en arrivant, c'était le premier design qui avait été fait par l'informatique. Donc on avait des frames, merci Daniel. Absolument l'horreur. Donc j'ai démarré ma carrière chez Capgemini en expliquant pourquoi les frames c'est nul. Why frames suck most of the time, si vous savez à quoi je fais référence. Donc assez rapidement, en fait, dès 1999, je me suis attelé à un premier design ici. Je suis pas très bon pour regarder des copies d'écran de l'époque, mais ça c'était une épreuve de travail crayonné avec un certain nombre d'erreurs. On essayait de faire des tests. Hein. Et ça c'est grosso modo avec le bouton dans le bon ordre là où il faut. C'était le design qu'on avait en 1999. Il a duré presque 2 ans. En fin 99, mais réellement publiquement en l'an 2000, Capgemini a racheté la branche conseil de Ernst & Young et s'est débaptisé, s'est rappelé Capgemini Ernst & Young. Et donc il a fallu refaire le site. Il y avait un nouveau logo, enfin vous imaginez tout le truc. Donc on est passé à un design un petit peu plus carré. Ce design a tenu jusqu'en 2004, où nous avons cessé d'avoir l'autorisation d'utiliser le nom Ernst & Young dans notre propre nom, et où il a fallu se redébaptiser, et on s'est appelé Capgemini, à nouveau, mais avec un changement de logo. Donc on n'a pas fait énormément, et strictement aucun budget pour faire quoi que ce soit d'intéressant. Donc grosso modo, ça a consisté à changer le logo, changer un petit peu la bannière en haut, réarranger deux, trois machins, et puis voilà. Mais là, il y a eu un budget pour faire un design réellement intéressant. Jusque-là, tout ce qu'on avait fait là, à part le tout premier design de 97, avait été fait intégralement en interne. Et avait été fait intégralement avec les moyens donnés, à savoir, bon, on met un coup de peinture, on essaye de faire du mieux qu'on peut, avec des gens quand même assez motivés, mais comment traduire en français design in a shoebox. Ok, pas grave. En gros, avec des pas des bouts de ficelle, mais presque. Et donc le dernier design que j'ai eu le plaisir de piloter chez Capgemini a amené à ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur capgemini.com. Alors ça, c'est un petit plaisir que je me suis fait au moins une fois sur un gros site institutionnel. Quelques jours avant de lancer le nouveau site, j'ai remplacé tout le site par juste cette image-là qui expliquait en fait hein, ce qui allait arriver quelques jours après. Donc j'expliquais en gros la navigation du nouveau site. Donc le moteur de recherche était, on avait un moteur de recherche quasi inexistant avant, qui bien évidemment c'était une demande, la demande numéro un des internautes. Et puis on expliquait un petit peu la navigation que vous voyez ici. J'ai reçu plusieurs mails de gens qui disaient on a piraté notre site. Et enfin, le 17 mai 2005, on a lancé ce site-là, et je vais vous parler du design de ce site. D'abord, ma conversion au standard web. C'était un cheminement pas nécessairement très long, moi, pour me convertir. Un cheminement grâce à un certain nombre d'influences dont je vais vous parler, beaucoup de questionnements et d'obstacles, une évangélisation assez importante et un certain nombre de convictions sur ce qu'il fallait faire. Donc les cheminements et influences, c'est des noms que vous avez déjà vus depuis hier, enfin que vous connaissez certainement déjà si vous êtes intéressé au standard. Moi j'ai démarré avec Listapart à l'époque où c'était une mailing list sur le web, et non pas le site web vous connaissez peut-être, Jeffrey Zeldman, qui est une agence qui s'appelle Apicog à New York, le style guide de la bibliothèque de New York, 2001 peut-être, 2001, qui a été une révélation pour moi sur voilà un beau site, des style guides, vraiment des choses très très bien expliquées. Concrètement, il faut savoir que dans mon rôle, par exemple, j'ai une casquette de policier chez Capgemini sur c'est moi qui édite les standards web et qui les impose à 30 pays sur les 30 pays où on est présent dans le monde. Ça impose évidemment de décrire les chartes, les guidelines, les obligations, les conseils quand c'est pas des obligations. Et ça, c'était pour moi le premier exemple marquant d'une charte ouverte au public. On pouvait aller voir, il y avait toutes les explications. C'était très 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 bien fait. Le WASP, évidemment, le Web Standard Project. Listapart, à nouveau, mais là le site web. Douglas Bowman, qui est un designer qui travaillait chez Wired à l'époque, en 2003, il a passé Wired.com au standard web. Et ça également, ça a été quelque chose de très marquant pour moi parce que d'abord j'avais détecté Douglas parce que il avait une sensibilité graphique qui correspondait vraiment très très bien à ce que je recherchais. Et puis pareil, il avait un site énorme. Finalement pas très éloigné de ce dont on avait besoin, Et il fallait faire passer une entreprise, certes un petit peu moins grosse que la nôtre, mais enfin qui avait énormément de contenu, au standard web d'un coup. Et chose qui me marquait moi dans tout ça, et c'était ce qui a démarré ce que disait Tristan hier, hein, la beauté du web. Hein, c'est que moi j'ai appris tout ça par le web, et j'ai appris ça par des designers aussi. Chose importante, c'est que essentiellement là-dedans, c'est des initiatives de designers. J'ai pas appris ça par le W3C, j'ai pas appris ça autrement qu'en regardant d'abord des gens qui travaillaient sur le web, puis qui ont commencé à qui partageaient leurs connaissances, qui expliquaient au monde entier, qui voulait bien les lire, que bah voilà, on a fait ça, ça c'est bien, ça on s'est pris les pieds dans le tapis. Enfin, ils partageaient une expérience extraordinaire. Et moi, j'ai c'est aussi une petite passion personnelle pour le design, l'architecture et des choses comme ça. J'ai besoin de comprendre. Je suis ingénieur en génie chimique. J'ai besoin de comprendre les choses, de démonter les trucs et puis d'essayer de voir ce qu'il y a derrière. J'aime pas la technique pour la technique, c'est pas la beauté de la technique qui me fascine, c'est ce qu'on fait avec. Et ces gens-là expliquaient admirablement bien ce qu'on faisait avec. Et puis à un moment, ils ont commencé à pousser des gueulantes sur les éditeurs de navigateurs qui faisaient n'importe quoi. Avec leur tag propriétaire, la guéguerre entre Microsoft et Netscape, etc. Avant Capgemini, j'ai travaillé pour Netscape, j'ai travaillé pour Apple. Donc c'est aussi des choses que j'ai vécues. Ça fait partie de mes influences également sur la sensibilité au fait que il existe autre chose dans le monde de l'informatique que Microsoft, Windows et Internet Explorer sur le web. Ce qui était pas absolument évident quand je suis rentré chez Capgemini en 98. Une boîte où on devait être escompté sur les doigts de la main à travailler sur Mac, par exemple. Bon, puis en France, il y a évidemment le Standblog et Open Web. Le Standblog parce que l'animal Tristan Nitto, la première fois où j'ai découvert, c'est mon premier jour chez Netscape où j'ai vu apparaître un hurluberlu avec un casque sur les oreilles. Et enfin, vous avez pu voir le spécimen hier, c'était j'ai connu en 97. Et puis Open Web, évidemment. On y reviendra. Alors désolé pour le, il faut jamais faire ça dans une présentation, je sais, mais ça c'est un extrait que j'ai pris des guidelines que j'avais écrites en octobre 2001 dans la catégorie les directions futures vers lesquelles on va aller, où j'essayais d'expliquer déjà à mes webmestres que il existe un truc comme le Web Standards Project, il existe peut-être une solution à la guerre des navigateurs. Au problème du codage, comment on fait pour coder des pages qui marchent bien dans pas seulement Internet Explorer sous Windows et encore telle version d'Internet Explorer, etc. Donc je leur donnais un certain nombre de pistes et de liens, et le fait que, alors là je me suis vraiment admirablement bien planté, que peut-être dans pas plus tard que 6 mois, vous voyez, fin 2001, on va peut-être être capable de séparer la présentation du contenu. J'avais trouvé un truc génial, là. Look ma no tables, regarde maman, sans les mains, sans les tables, et qu'il fallait commencer à faire la chasse à Netscape 4, hein, qui était déjà, quand j'étais parti de Netscape, même à l'intérieur de Netscape, pas forcément très très bien considéré. Bref, donc j'ai eu du temps, des années, pour réfléchir à ça. Comment je fais passer cette auguste maison au standard web avec un existant lourd, une méchante monoculture, Microsoft, essentiellement, et un certain nombre de blocages humains. L'existant lourd, vous connaissez certainement, une belle soupe de balises. Et ça allait pas s'arranger, parce que déjà, c'était du questionnement en 2001-2002. Alors, j'ai commencé une évangélisation interne auprès des webmasters, auprès des décideurs, auprès des gens qui ont le carnet de chèques. Mon chef. J'ai eu un premier contact avec Jeffrey Zeldman en février 2002, où je voulais l'inviter à ce qu'il vienne à une rencontre avec l'ensemble de mes webmestres à Paris et qui leur parle des standards web. Parce que là déjà il y avait vraiment vraiment un gros problème de connaissances à ce niveau-là. Et puis en 2003 j'ai repris contact avec Tristan. On a eu une discussion. Je lui ai fait découvrir Listapart. Et puis il me parlait d'Open Web. Super. Donc c'est là que j'ai découvert Open Web. Et puis je discutais en disant mais bon c'est bien gentil l'évangélisation mais c'est que de la technique. J'explique les standards web c'est bien mangez-en, c'est super les CSS, tralala tralala. Et puis moi j'avais la partie là à convaincre. Et puis là il me dit mais pourquoi t'écris pas un truc avec les, c'est quoi les avantages des standards web pour une entreprise? Donc j'ai écrit un article qui a été publié par Open Web, qui a ensuite été traduit par Stéphanie ici en anglais et publié après par le Web Standard Project, qui sont les standards web pour l'entreprise. Donc c'était en novembre 2003, à un public de décideurs où j'expliquais pourquoi c'est bien d'un point de vue business de passer aux standards web. Parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus pérenne, parce qu'en termes de maintien d'une charte d'entreprise, les chartes c'est des choses, tout le monde en veut, les entreprises ont toujours des chartes, vous n'avez pas le droit de faire ci, ça, n'importe quoi, etc. Ça coûte vachement cher, surtout quand on les change, et on les change tout le temps, ou presque, hein, quoi, quand on a les moyens. Pourquoi c'est bien pour le directeur informatique, parce que la bande passante, ça a quand même un impact très positif dessus, etc. etc. Donc là, on était fin 2003. Moi j'étais déjà convaincu depuis j'ai commencé 2001-2002, j'étais déjà convaincu. Alors là, il y a le facteur humain, blocage en interne. Ça c'est des citations de mes webmasters. En gros, tous les sites CSS se ressemblent, c'est moche et carré. Alors ça a été vrai, je dois l'avouer, parce que les débuts, comme on se copie tous, etc., les premiers, les pionniers ont commencé des trucs. C'est vrai que c'était quand même pas brillant au démarrage. C'était tous les sites se ressemblaient, grosso modo, un petit peu dur. Ça marche pas dans Dreamweaver. Ça marche pas dans FrontPage. Enfin, plutôt les gens qui me disaient ça marche pas dans FrontPage, c'est quoi FrontPage? C'est pas dans ma liste des logiciels autorisés. Enfin, je suis connu aussi pour dire que c'est la plus grosse merde logicielle qui ait jamais été sortie par l'industrie du logiciel. Enfin, la version à l'époque. Ça marche pas dans Internet Explorer 4. Ah, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça s'affiche pas pareil. Ah, oui, mais ça... On a aussi la culture de... Oh, mon Dieu, j'avais décidé que le logo, il était là, au pixel près. Il est pas là, il est 5 pixels de plus à droite. Ça, il y a des gens qui bloquent pour ça. Ça, j'ai adoré aussi. Comment ça, tu veux dire qu'il faut mettre les doigts dans le code? Là, j'ai découvert que il y avait pas grand monde avec le titre de webmestre qui savait ce que c'était que HTML. Rigolez pas, mais c'est vrai. Merci Dreamweaver. Merci FrontPage. Il y a des gens, ils n'ont jamais regardé ce qu'il y avait. Enfin, si, ils ont regardé, mais... Dieu. Alors évidemment après quand je leur dis oui ça marche pas dans Dreamweaver, bah c'est pas dur, tu le codes à la main. Bon, et puis alors l'autre grandiose aussi c'est IBM l'a pas fait, c'est vrai. Aucune des entreprises d'informatique à l'époque n'avait de site web conforme au standard web. Même pas conforme à HTML4, hein, c'était mais nous on avait à la validation on devait avoir 200 erreurs sur la homepage. C'était pareil pour tout le monde. Les convictions que j'ai acquises à l'époque, c'est que, bon, évidemment, j'apprendrai pas grand-chose aux gens, c'est que le design, c'est quand même beaucoup plus que le coup de pinceau, coup de peinture sur le graphique, le look and feel, la gueule du site. Autre conviction, c'est que les standards ont un véritable avantage business. J'aurais pas écrit l'article pour Open Web sinon. Et puis la troisième conclusion, ça c'est un article que j'avais écrit fin 2000, qui est les webmestres ont une espèce en voie de disparition. En tout cas, les webmestres qui sont cramponnés sur de la technologie, de la vieille technologie, qui veulent pas en bouger, qui s'intéressent pas à ce qui se passe autour d'eux, qui deviennent de facto un goulet d'étranglement. Jamais bon d'être un goulet d'étranglement dans une boîte privée. Donc, le redesign de Capgemini, ça a été des obstacles, une refonte complète et une méthode. Les obstacles, l'existant, vous l'avez vu, la soupe de balise, je vous la repasse pas, sauf que entre 2001, 2002 et 2004, il y avait beaucoup plus, c'était des tonneaux de soupe. Pour vous donner une idée, le capgemini.com à l'époque, c'était 10 000 documents. Un site. On avait 30. Culture, tradition, la monoculture, le problème de la formation des webmasters, et pas que des webmasters, il y a aussi les communicants, des traditions, boîtes de technologues qui ont un avis sur toutes les technologies, surtout en fait, une grosse tradition de projeter l'organisation interne vers l'extérieur, des problèmes de temps, toujours le web, c'est de la rigolade, c'est facile le web, vous allez nous faire ça en 3 mois, six mois. Imaginez une refonte complète d'un truc pareil en 6 mois, mais c'était ça l'objectif imposé par le management. Problème, le design en comité. Ça aussi, ça c'est bon, grosse boîte, hein. Tout le monde a son avis sur tout. Il faut faire de la politique, hein. Il faut plaire aux gens. Vous imaginez convaincre 30 pays de changer. Bon, ça va, je commence à avoir quelques années derrière moi. J'étais le premier, la quatrième personne à qui on avait confié cette tâche de stop de chaos, mais le premier à avoir réussi à le faire. Donc, je commençais à avoir un peu, un petit peu d'expérience à ce niveau-là, mais il y a vraiment un truc, pour une fois, j'avais pas envie, le piège dans lequel j'avais pas envie, c'était le comité pour refaire le design du site web. Plus jamais ça. Et un problème de ressources, hein. Ressources, c'est pas juste le budget, c'est les compétences, c'est trouver les gens, les experts qui sont disponibles au bon moment, qui ont envie de travailler avec nous et avec qui on peut avoir un peu d'espoir que ça va fonctionner. Alors le design. Le design, c'est pas les standards web qui m'ont fait découvrir ça, c'est autre chose que le coup de peinture qu'on avait réussi à faire les années précédentes parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose. Là, coup de bol, gros changement de nom, gros changement de logo, budget rebranding, budget de publicité, etc. Ça faisait des années qu'on perdait de l'argent et là, ça commençait à aller un poil mieux. Miracle, j'ai eu des sous. Donc, on va pas se louper. Ça a été d'abord, alors j'ai pas réussi à le traduire en français, je suis désolé, mais c'est la chaussette qu'on retourne, outside in, c'était, quand je suis arrivé chez Capgemini, j'ai mis 6 mois à comprendre comment cette bestiole fonctionnait, était organisée, les sites web, et comment il fallait refaire le truc. Parce que c'était la projection complète directe de l'organisation interne vers l'extérieur. Et je suis arrivé avec cette mentalité de, vous êtes gentil, mais c'est pas des gens à qui vous venez distribuer vos brochures. Le site web. Les gens, ils viennent, s'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas. Ils viennent d'eux-mêmes. Il faut se préoccuper de ce qu'ils cherchent sur un site web, comment ils l'utilisent, etc. Puis refaire tout dans l'autre sens. Et s'il faut changer l'organisation pour ça, eh ben, on changera l'organisation. Le pragmatisme, c'est on change l'organisation comme on peut, mais on essaye de faire le juste milieu entre les attentes des visiteurs et l'organisation interne et les objectifs business de la maison. Donc, on avait, une méthodologie de pas se regarder le nombril, de vrais objectifs business hein, qu'on confrontait avec ce qu'on savait déjà de la façon de l'utilisation de nos sites web, un vrai travail d'architecture de l'information, une charte graphique évidemment, la conformité XHTML CSS que j'imposais dans ce redesign là, un guide de style et des contenus réellement rédigés pour le web. Et un système de gestion de contenu. La méthode, c'est là, j'ai aussi voulu rompre avec la tradition de la maison, qui est, cette fois-ci, on fait appel à un maximum de regards extérieurs. On a fait des évaluations externes. On s'est fait évaluer le site par Forrester, d'autres. Il y a eu un questionnaire des visiteurs qui a tourné presque pendant un an sur l'ancien site. On a exploité tout ça pour voir où on en était. Et puis la grande question pour moi sur ce coup-là, où j'ai tout de même joué assez gros, c'était agence ou freelance. Alors je suis désolé, mais c'est le genre de secret de polichinelle, mais grosse boîte, grosse agence. Hein, on met des parapluies sur la tête. Si ça merde, c'est pas ma faute, c'est eux. Donc on avait une grosse agence qui travaillait pour nous pour le changement de marque, etc. Et puis bah, j'avais une pression phénoménale pour que bah, dans le changement de logo et tout le tralala, on va leur filer le budget web. Ça, c'était pas triste. Bon, donc grosse question sur le questionnement des, enfin, quels acteurs et quel rôle pour les acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour la même expression du besoin et le même budget? La grosse agence, même moi j'y croyais pas, mais je leur ai posé la question deux fois. C'est quoi les livrables? Un PowerPoint. Faites-moi un site web avec un PowerPoint. J'ai présenté exactement la même demande à des freelances et j'avais pour moins cher que le PowerPoint, qui aurait été certainement le PowerPoint le plus cher de la place de Paris à l'époque, mieux que le blog de, c'est quoi, le ministère de la Culture. Pour moins cher que ça, j'avais des gens qui me faisaient toutes les interviews des patrons, entre 40 et 50 patrons d'unités opérationnelles de centres de profit, pour leur demander ce qu'ils attendaient de leurs objectifs business qu'ils attendaient du web. L'architecture de l'information, le design graphique, les templates XHTML, CSS, le système de gestion de contenu, du rewriting web, et plutôt des pointures pour faire ça. Donc, alors là, vous le verrez en lien dans la présentation. Je vous recommande de lire ça. Il y a Zelman, il y a quelques semaines, a fait un lien vers un gars qui a une petite agence et qui explique pourquoi le modèle de l'agence est mort. Et c'était notre histoire 2 ans après. Alors, qui est-ce que j'ai pris pour faire ça? Les freelances, bah, c'est Jeffrey Zelman, Douglas Bowman, Adam Greenfield, que vous connaissez peut-être pour son bouquin Everywhere ou son site qui s'appelle V2.org. Brian Alvey, qui a fait le système de gestion de contenu que vous connaissez, qui est le cofondateur de Weblogs Inc. On dit toujours que Weblogs Inc. a été fondé par l'autre, comment ça s'appelle, Calacanis. Hein. On parle jamais de cofondateur. Et Erin Kissan, qui écrit admirablement bien sur le web. Bah oui, j'ai eu les moyens. Enfin, j'ai eu les moyens quand j'ai vu le prix d'un PowerPoint de l'autre côté de la scène. Là, je me suis dit, attends, je vais leur poser la question. Alors, le petit problème, c'était ces gens-là, c'est des gens qui peuvent choisir leurs clients. Puis Capgemini, c'est pas nécessairement le client le plus sexy de la planète hein, pour refaire son site institutionnel. Mais aussi autre beauté du web, j'ai un blog depuis 4 ans, ces gens-là sont des gens qui partagent leur savoir sur le web, je les lisais avec vraiment grand intérêt ou passion depuis des années, bah j'y suis allé au culot, ça a été, bah voilà, vous avez fait ci, ça m'a impressionné, etc. Et moi j'avais aussi un blog, ils pouvaient aller voir, et il y a eu un fit à ce niveau-là qui a été, moi je les ai sélectionnés parce que je les ai lus, je trouvais que c'était des gens intéressants, que c'était pile poil la brochette de gens, l'équipe de choc idéale qu'il me fallait. Et puis eux, ils sont venus voir sur mon blog, et puis ils se sont rendus compte que j'étais peut-être pas le client standard, que je savais de quoi je parlais, que ça allait pas être le design in committee justement, et puis que peut-être c'était pas exactement le gros projet institutionnel bien pénible dont ils pouvaient se passer vu les clients qu'ils ont. Et de notre côté, pour éviter le comité, il y a eu 3 personnes, un chef de projet, un webmaster avec un profil un petit peu plus gros que profil technique, et le chef d'orchestre, c'était Moi. Et les contributeurs qui sont les gens qui utilisent réellement, d'un point de vue business, le site web, c'est la com, le marketing, les ressources humaines et les ventes, essentiellement. Mais ils étaient dans un rôle de contributeur. Pas question que l'un prenne plus de poids que l'autre. Et là, ça a, ça a été des batailles homériques, parce que le marketing, par exemple, je suis absolument désolé, mais... ne m'en veuillez pas si j'ai la dent parfois un petit peu dure vis-à-vis du marketing, mais c'était vraiment le web, c'est nous. Ils avaient énormément de mal à comprendre quand je leur disais, mais attendez, la première chose que les gens viennent chercher sur le site web, c'est du boulot. Première fonction d'un site web institutionnel comme Capgemini, c'est les demandeurs d'emploi, les gens qui cherchent du travail. C'est les RH, en fait, qui sont les plus gros consommateurs de web encore. Après, il y a le marketing, la com, c'est différent. Il y a la com institutionnelle, on est une société cotée au CAC 40, hein, il y a des obligations de communication, et puis évidemment les ventes. On fait pas de commerce électronique, mais ça reste un canal tout à fait intéressant. Alors attendez, parce que est-ce que je peux sortir de ce truc-là? Je vais quand même vous montrer... Non, je vous montrerai. Ça donne quoi 16 mois après? Alors déjà, première chose, on a commencé le travail, la vision que j'avais de ce site, c'est peut-être 2002. On a failli changer de nom fin 2002, début 2003, et là j'avais déjà commencé à cavaler pour avoir Zelman, Bowman, etc., puis ça a été arrêté en catastrophe, on a tout arrêté, on n'avait pas les moyens, donc on a repoussé ça en 2004. On a commencé le travail de design en mars, première réunion avec Zelman, Bowman et Greenfield, c'était en mars 2004. Le site a été dévoilé au public le 17 mai 2005. Ça nous fait 15 mois. Pas mars, avril, mai, 15 mois. On aurait pu le faire 6 mois, ce travail-là en 6 mois, c'était irréaliste. Ça, c'était l'objectif qui nous était fixé, c'était parfaitement irréaliste. Et était fixé exclusivement parce que tel jour, on change de nom, il faut que ça soit prêt tel jour. Tel jour, vous aurez le nouveau logo et puis basta. Là aussi, c'est un métier dans lequel il faut beaucoup savoir dire non. Et puis après, il y a eu des problèmes budgétaires et il y a eu énormément de problèmes avec les contributeurs au niveau du contenu qui n'ont pas réalisé que leur travail était absolument primordial d'une part et que c'est énormément de travail. Donc qu'est-ce que ça donne 16 mois après? On a d'abord au lancement, on a eu là j'étais vraiment désolé si ça passe pour de l'autosatisfaction, mais c'est le premier design où vraiment j'ai eu une réaction de l'extérieur qui a été très positive. Les designs précédents, on n'avait pratiquement pas de réaction. C'était un coup de peinture, mais les gens ne réagissent pas en disant « il est joli votre coup de peinture ». Là, on a eu des feedbacks de l'extérieur. J'ai publié un petit truc sur mon blog, Zelman a fait pareil, Bowman a fait pareil. En 24 heures, on a eu 10 000 visiteurs uniques, rien qu'à nous trois, depuis nos sites personnels. Ça a généré plusieurs dizaines de billets sur la blogosphère en disant, c'est quelque chose d'important, etc. C'était le seul site du CAC 40, hein, quand on l'a lancé, qui validait. Alors pas tout à fait le seul site à être passé au standard. Il y avait de mémoire 3 sites à peu près qui avaient fait un travail de au moins sur leur page d'accueil, pas nécessairement l'ensemble du site, mais ça validait pas. Bon, c'est pas, je leur jette pas la pierre parce que c'était encore l'époque où le validateur vous vouait aux gémonies parce que le et était pas et en point virgule. Alors qu'aujourd'hui, si vous validez la homepage de capgemini.com, vous aurez plein de warnings de ce genre-là, parce que bon, on reparlera de l'éditeur web qui permet de faire ça. Mais c'est plus considéré comme une hérésie, donc on a toujours le petit tag, ça valide, même s'il y a ces warnings-là. Mais c'était le seul site du CAC 40 qui validait et qui validait complètement de A à Z. 16 mois plus tard, il y a toujours de bons retours, surtout il y a des bons de retours en interne. même les gens qui étaient arc-boutés comme d'hab contre, il y a toujours des gens qui sont contre quand vous changez les choses. Même les gens qui ont été les plus féroces adversaires de ce redesign aujourd'hui trouvent que c'est le meilleur qu'on ait jamais fait. La conséquence, c'est qu'il y a une très bonne réutilisation puisque tout le monde, tous nos pays l'utilisent aujourd'hui. Même ceux, enfin les Danois, ils sont passés le mois dernier, mais ça, c'était des gens, je change pas. Simple. Ça valide toujours, ouf. Ce qui est pas une mince affaire puisque ce sont plus les webmasters qui font le contenu du tout. C'est des gens de la com, du marketing qui connaissent rien à la technique. Connaissent pas le HTML. La charte graphique et le système de gestion de contenu ont été repris sur l'intranet et très facilement, ce qui est pas une surprise pour la charte graphique parce que c'était le but du jeu, sauf que sur l'intranet, c'est un design fluide, on a un design fixe sur le site externe, là on est sur un design fluide un petit peu plus souple. Parce qu'on a des applications sur l'intranet qui sont pas exactement les mêmes besoins qu'un site institutionnel, mais ça a été, je crois, une maximum 2 jours de boulot pour adapter juste la feuille de style et un petit peu la structure HTML du gâteau. C'était jamais vu avec les chartes précédentes. Alors les standards deviennent un argument de vente, ça m'a surpris le premier. D'un autre côté, c'est la culture de Capgemini aussi de s'approprier les avancées technologiques. Regardez, nous, on maîtrise les standards web, mais même sur l'intranet et notamment auprès des directions informatiques. Aujourd'hui, alors d'accord, on est en 2005, hein, 2005-2006, donc là, ça y est, ils ont commencé à comprendre, c'est bon, c'est un avantage. Donc du coup, on le dit quand on lance un nouveau site et tout, c'est conforme aux standards. On ne voyait jamais ça il y a quelques années. Les standards. La consolidation de 24 sites sur 27 sites géographiques, donc Capgemini France, Allemagne, etc., sur le même serveur et sur le même système de gestion de contenu. Aujourd'hui, j'héberge tout Capgemini sauf l'Amérique du Nord. C'est un problème culturel. Ils ont inventé le web, donc les petits Français. Ouf. Les choses intéressantes d'un point de vue business, c'est que rajouter les 24 sites, moi j'ai juste doublé la bande passante. C'est le même serveur, c'est le même environnement, et c'est que des sites dynamiques. On est passé des sites statiques en sites dynamiques. C'est la même machine. Je me suis juste contenté de doubler la bande passante pour améliorer un peu les choses. Et évidemment, c'est tout simplement parce que on est un petit peu plus efficace en termes de poids des pages. Pas de la homepage, parce que la homepage précédente était vachement optimisée. Donc, surprise, mais quand je compare les deux, celle de aujourd'hui, ce matin, par rapport à la dernière du 10 mai 2005, en fait, on est un tout petit poil plus lourd aujourd'hui parce qu'on transporte plus de graphiques. Le code HTML, lui, par contre, il est plus léger, c'est à peu près moitié moins. Mais surtout, le nombre de pages, en moyenne, les gens visitent entre 7 et 10 pages sur le site. Et c'est là-dessus que se joue la diminution de bande passante, parce que la feuille de style, on la charge qu'une seule fois. Et puis que sur l'ancien site, on avait un splendide menu déroulant, qui prenait mais une place, on avait ça pour le menu déroulant, et puis on avait ça pour le contenu en bas de page du code HTML. Donc oui, ça aussi, grande révolution, ça a été en termes d'ergonomie, c'est terminer les menus déroulants. Les menus déroulants, c'est comme les frames, c'est pas bien. C'est pas passé comme une lettre à la poste, ça. Là, ça, je suis assez content de moi. Malheureusement, je n'ai pas de bonus. Mais sérieusement, on fait une économie avec tout ça, c'est supérieur aux millions d'euros par an en frais de fonctionnement. Ben, c'est pas rien. Et évidemment, ben, une flexibilité extraordinaire, vous imaginez, on a un système de gestion de contenu, il n'y a plus de pages tricotées à la main en soupe de balise. On a, on s'était mal débrouillé au début avec le site, mais aujourd'hui, on arrive à faire un site comme capgemini.com avec à peine une quinzaine de templates dans le CMS. et puis des trucs assez assez costauds, mais le CMS on l'a fait écrire, puis on se l'est approprié pour nous, donc il fait pile poil ce qu'on veut, c'est un truc fait sur mesure pour ce site. Et évidemment la flexibilité du XHTML CSS où énormément de modifications demandées au fil de l'eau par les communicants ou par nous liés aux évolutions, c'est des simples changements dans un seul fichier. C'est vraiment super pratique. Qu'est-ce que dit Jacob Nielsen, qui est un gourou parfois contesté de l'ergonomie. C'est bon, c'est fini, il n'y a plus. Bon. Grosso modo, ça c'est les 10 erreurs de design en 2005, hein, sachant que donc on avait démarré le design nous début 2004, hein, la vision du truc un an avant. C'est la légibilité du texte. Bah, vous pouvez augmenter le texte. Je ferai peut-être une petite démo s'il y a le temps. Les liens non standards, bon, ça, on fait des beaux liens bien bleus. Vous savez si vous les avez visités. Vous savez si ça va, si c'est du PDF derrière du texte. Flash, ah, flash. 3 semaines avant le lancement, le marketing fait une pression d'enfer pour mettre un gros flash sur la homepage. J'avais bien vendu le fait que être la première boîte du CAC 40 à sortir un site standard, c'était peut-être un élément de communication intéressant. C'est une bataille sympa avec le marketing, mais j'ai finalement réussi. Contenu non écrit pour le web, on a fait quand même du travail là-dessus. Mauvais moteur de recherche, on a tout refait. C'est une Google Appliance en fait qui est derrière. On a Google Inbox derrière le site qui gère tout ça. L'incompatibilité avec les navigateurs, ben ma foi, ça marche plutôt pas mal. Formulaire complexe, j'ai mis en rouge parce que essayer de télécharger certains des documents, on va vous demander votre pédigré avant de pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Pas d'info de contact, bon, une boîte française qui faisons les choses bien, donc on a toutes les informations de contact et un formulaire de contact avec un blog movable type bricolé derrière, ça marche super bien. Les gabarits à largeur fixe, ça, on a la largeur fixe, et pas de jour zoom sur les images, c'est pas notre problème. Donc, juste très vite, les chances franchement que j'ai eues, c'est j'ai eu les moyens d'avoir une refonte complète, la maîtrise complète de la méthode et des choix, une équipe de choc, une vraie collaboration dans cette équipe, et non pas le modèle militaire armé de l'agence, hein, qui est vous causez d'abord au commercial qui dit oui à tout avant que vous signiez en bas de la page, puis après vous causez au directeur artistique, mais alors le reste en dessous jamais. Une fin de monoculture et un système de gestion de contenu qui permet une édition directe et propre. Les leçons, c'est il faut savoir vendre les standards en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Vendre les standards d'un point de vue technique, c'est pas la même chose que vendre les standards d'un point de vue business. Éviter les comités. Éviter les agences, je mets un point d'interrogation. Non, c'est éviter les mauvaises. Éviter celles, justement, qui sont l'armée. Genre, je fais tout en linéaire, et puis quand il y a un mec qui dit il y a un problème, ça remonte tout en linéaire dans l'autre sens, avec les déformations dans un sens comme dans l'autre. Le système de gestion de contenu, pour moi, est un truc déterminant, et j'ai 2 messages à faire passer aux communicants. Alors bon, j'ai mis un smiley parce que je sais que c'est pas entièrement vrai. Flash, c'est web 1.0. Et contenu et service, c'est 80% du boulot. Donc, j'en terminerai. Non, mais Flash, c'est bien quand c'est bien utilisé. Voilà. Donc, besoin d'infos ou de conseils, vous voulez refaire la même chose que capgemini.com, je suis disponible.
Avant de terminer, on pense là que ça vaudrait le coup peut-être de squeezer 2-3 questions-réponses pour avoir une démonstration du site, si c'est possible.
Si tu peux, je vais vous montrer juste un truc. Si tu peux juste me montrer la souplesse de ce truc, parce que c'est un des seuls sites qui simule des colonnes de taille égale et qui le fait très bien et très accessible.
Voilà,
très
c'est la homepage. Je vais vous montrer l'ancien. L'ancien, voilà, avec le joli menu déroulant que j'ai accroché. Ici, si j'essaye d'agrandir les caractères, vous allez voir que, oups, au niveau des graphiques, ça va pas très très bien. Bien. Là, si je fais la même chose ici, alors d'abord il n'y a pas de menu déroulant. Là, vous allez voir que l'image, vous voyez l'image du header là, c'est agrandi. Tout. Puis le texte, c'est du texte. Et puis ça continue comme ça. Qu'en fait, on a fait un gros boulot de... certes, il y a des images, parce qu'il faut quand même pas que ça soit... déjà, le contenu, il est un peu... Hein, si en plus, c'est pas beau, ça va pas.
Merci François. Il y a une première question là-bas.
Oui, je suis là. Ce serait possible, Mathilde Henry de bonnenouvelle.fr, ce serait possible de savoir quel CMS utiliser et sur quels critères il a été choisi, et si l'info est diffusable. Budget aussi pour comparer au milieu de millions d'euros d'économie.
Bon. Le système de gestion de contenu, j'ai passé des années à trouver un système de gestion de contenu qui réponde à nos besoins et qui coûte pas, qui nous coûte pas trop cher. De mon expérience, ça a été, on l'a fait faire par des gens qui savent faire ça. Mais sur mesure. Donc c'est pas un système open source ou quoi que ce soit, c'est un système qui est voilà, je vous montre une vue d'une page. Donc c'est un système de gestion de contenu qui a été fait spécialement pour ce site, avec des notions de facettes dans les informations qui permettent, par exemple, toutes les brochures qui sont sur le site sont facettées en disant ça concerne telle industrie, ça concerne tel pays, ça concerne telle entité, telle offre de service. On coche les petites cases et dans le site, vous pouvez voir tout ce qu'on a fait pour la France, tout ce qu'on a fait en gestion de relations clients, tout ce qu'on a fait avec Oracle, etc. Simplement en marquant les documents. Donc ça, on a fait faire le système et c'était dans le paquet cadeau avec la contrainte de on récupère le truc chez nous et on est autonome une fois qu'on a terminé les relations avec l'agence. Donc ce site, j'ai un collaborateur qui est presque mon webmaster en fait, qui également développe ce système, l'arrange. Alors le truc que je voulais montrer, c'est ça. Ça, c'est ce qui permet aux gens du marketing et de la com d'éditer le contenu. Très honnêtement, si vous me demandez ce que c'est, j'ai pas regardé dans le code, je ne sais plus. C'est un produit commercial en fait, une applette que vous mettez. Et moi, j'ai fait retirer de cette applette-là toutes les horreurs genre police de caractère, taille de la police, couleur, et choses comme ça. Donc avec les petits boutons là, ils peuvent pas me faire de bêtises dans le code. Alors ils peuvent toujours cliquer là-dessus pour faire du HTML, mais bon, ils ont peur. Dès qu'ils cliquent là-dessus, ils ont peur, ils recliquent tout de suite sur design et c'est bon. Donc pas besoin d'aller chercher des solutions très compliquées. Alors derrière, on a quand même des algorithmes, hein, parce qu'on se rend compte que ça, ça marche plus ou moins bien. Il y a des bugs. Je sais plus si c'est TD ou, enfin bref, on a quelques petites moulinettes derrière qui récupèrent les problèmes les plus flagrants qu'on a détectés. Mais 16 mois après et l'édition par des gens qui connaissent pas un P de HTML, ça valide. D'où mon point sur le système de gestion de contenu, c'est absolument primordial. Maintenant, il n'y a pas de dogme à ce niveau-là. Il y a des systèmes de gestion de contenu open source. À l'époque, pas trop, j'en avais pas vu. Mon webmaster se trouve être un des collaborateurs de Typo3, mais Typo3, c'est un truc absolument génial, mais en termes d'ergonomie, d'interface utilisateur, par rapport à ce qu'on a là, c'est franchement autre chose.
Est-ce que tu peux nous parler des aspects financiers ?
Non, je suis désolé. C'est très très raisonnable pour le résultat obtenu. C'est-à-dire qu'en fait, la chose, c'est vrai que Zeldman, Bowman, etc., c'est pas des gens qui coûtent pas cher. Le tarif journalier de Bowman, c'est $2,400. Ça, c'est si tu le fais travailler une journée. Ils ont quand même travaillé plusieurs mois, donc on a eu droit à un tarif. Il n'empêche que moi, la découverte que j'ai faite à travers ça, c'est que vous pouvez vous payer des pointures pour moins cher qu'une agence qui a pignon sur rue à Paris. Enfin, une grosse agence. Par contre, il y a beaucoup de petites agences dans Paris qui font du super boulot et qui sont pas au même tarif que les grosses agences. Ouais. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros.
On a une question ici.
Oui, merci. Donc en fait, moi, je voudrais poser ma question qui... Allô, vous m'entendez ? Oui.
Oui.
C'est la suite de la question précédente. C'est au niveau donc des CMS. Moi, j'ai en fait, sur notre système, on a on a pris un CMS open source qui s'appelle OpenCMS. On l'a fait développer par une agence pour qu'il s'ajuste à notre site avec certains templates. On n'en a pas 15, on en a très peu, on n'en a que 4-5 templates web. Le problème, moi, par rapport à votre système CMS où vous avez tout bien, vous avez enlevé les boutons, c'est que moi, les contributeurs qui sont aussi des gens du marketing et de la com, donc la même chose que vous, un espace pour remplir leur contenu. Le problème, c'est qu'en fait, avec OpenCMS, je peux pas enlever justement les boutons police, les boutons machin, donc je me retrouve coincée. Qui plus est, quand je fais les formations sur ce produit, je leur dis n'importez surtout pas, faites pas du copier-coller de Word, parce que c'est l'horreur. Attendez. Et donc en fait, je leur dis utilisez le bouton clean code HTML, parce qu'il y a quand même ce clean code. Mais je suis sûre que, en fait, les gens n'utilisent pas ce bouton. Donc, au bout de maintenant de 6 mois, j'ai des pages qui sont horribles. Je suis sûre de pas être au standard. Et, la solution, voilà, c'est ça. J'ai installé un CMS. Non, mais qu'est-ce que je peux faire? Pour faire du standard avec un CMS? C'était ça ma question.
Alors, je sais pas s'il y a des développeurs dans la, enfin, si, il y en a un, là. Il y en a un, là. Il y a quelques années, j'ai écrit un truc sur il y en a marre des éditeurs Wheezy Fuck. What you see is fucking ugly code. C'est extraordinaire, quoi. J'ai l'impression que tous les étudiants en informatique qui sortent quand ils ont pas écrit un énième serveur web ou un énième système de gestion de blog, ils écrivent un énième éditeur de design HTML qui est aussi pourri que les autres. Ça, cette compréhension de XHTML, CSS, j'ai ma feuille de style, c'est ma feuille de style à moi. Quand je cherche les formats là-haut, dans le bouton format, ils n'ont pas la possibilité de sélectionner, autre chose que les formats qu'on a définis dans la feuille de style.
Oui, parce que c'est vous fait, mais quand on prend un truc, moi j'ai...
Mais vous avez fait intégrer votre système par une agence.
Oui, mais l'agence m'a dit... Alors,
il faut le mettre dans le cahier des charges.
Ben oui, mais l'agence canadienne m'avait dit qu'il avait fait, maintenant j'ai une agence française, qui m'a dit que quand il fait les Canadiens, c'était pourri. Bon, alors d'accord.
Okay. Oui, bon, classique.
Non mais je voulais pas dire ça. Non mais en fait, moi
les Canadiens vous auraient dit c'est pourri votre truc.
Non mais le fait c'est que j'ai pas de solution.
C'est vraiment
moi.
Qui était, non.
Mais il faut que je donne un outil aux contributeurs. Enfin, voilà.
Alors juste quelques mots complémentaires. Effectivement, mais je vais c'est Eric Morin et je suis développeur SPIP. Donc juste pour je vais appuyer ce que vous disiez, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a une forte demande d'utilisateurs pour avoir des éditeurs WYSIWYG. Mais avec derrière le gros problème derrière en termes de conformité dans le temps du code. Donc on est sur deux besoins antinomiques. Alors je pense que la solution intermédiaire que vous avez est très...
C'est pas antinomique. Enfin, vous êtes sur deux vrais besoins. On n'y répond pas correctement.
Voilà, on est sur deux vrais besoins et aujourd'hui il y a pas de vraie réponse. En tout cas, il y a pas de vraie réponse open source. Donc effectivement, vous intégrez des briques commerciales qui permettent.
Ça vaut 100 euros la licence.
Oui, non mais
on peut se le payer.
Alors effectivement, dans le cadre d'un projet particulier, c'est pas un problème. Mais je réponds aussi parce qu'en tant que développeur SPIP, on est dans une logique open source. Donc c'est vrai que aujourd'hui c'est un problème auquel on est confronté. On a du mal à trouver une vraie réponse. Mais il faut trouver une solution, mais qui est plutôt intermédiaire du style de ce que vous avez, c'est effectivement permettre d'avoir un certain nombre d'enrichissements typographiques qui sont WYSIWYG, mais pas tout. Ne pas permettre à l'utilisateur de tout faire derrière. Et on se retrouve derrière effectivement à devoir quand même nettoyer un peu le code.
Bon alors brièvement de manière pragmatique. Il n'y a aucun système automatique qui permettra un garde-fou absolu. Dit l'adage, la nature créera un fou encore plus fou pour contourner le garde-fou. Donc, moi, c'est un truc que mes managers aiment pas entendre, mais j'estime qu'il faut quelqu'un, il faut un gardien du site web, de toute façon. Vous aurez toujours quelqu'un qui va vous coller un clip art qui sort de vous savez pas où, PowerPoint, par exemple, au hasard. Comme ça, pouf, sur votre homepage. Il faut des gens pour contrôler, et il y a quand même un travail minimal de formation pour les éditeurs qui contribuent à un site web, pour leur expliquer des trucs qui sont, c'est pas qu'ils sont idiots, qu'ils savent pas. Vous avez vu ce que je vous ai brossé pour le design d'un site web. Les gens du marketing, c'est pas leur faute. Ils ont des objectifs, une mission, il faut qu'ils poussent des messages, etc. On leur demande pas de connaître la typo, les différences entre du GIF et du JPEG, ou des choses comme ça. Donc il faut quand même un minimum de rôle éditorial d'un webmestre, d'un responsable éditorial. pour récupérer les trucs que la technologie n'arrive pas à récupérer à 100%.
Il y a une dernière question, un dernier élément de réponse au fond de la salle.
Adrien Duquesne, Société Urbilog. C'est juste pour signaler qu'il existe, on a fait plusieurs tests sur les Rich Editor, X Standard, qui est, c'est une société canadienne qui fait un, bon, c'est, quand on l'importe sous IE, par exemple, c'est un ActiveX, mais qui génère du code XHTML accessible, parce que même si on crée un tableau de données, il fait les bonnes relations. Et c'est pas très cher.
Non mais il commence à y en avoir. Le problème c'est que les trucs intéressants qui marchent bien, ça tourne que sur PC et sur Internet Explorer. Donc, moi c'était une contrainte de je veux que ce truc-là il marche sur Mac, il marche sur Firefox, que partout où je me trouve, que j'ai un Mac ou un PC, ça marche.
Merci pour ces questions-réponses. Je suis désolé, on va enchaîner sur la présentation de Denis. Vous pouvez applaudir François, merci.